percée conquérante, les trous normands. Ils furent le fléau des rivages et des rives. Ils arrivaient sans bruit, pillaient, brûlaient. Ils étaient des démons en furie. Qui aurait pu penser qu'ils deviendraient des anges ? On nous met le feu ! Terribles les Normands, avec leurs dracars et leurs torches incendiaires toujours à la main. Charles le Chauve est obligé de négocier avec eux. Et puis, les Bretons s'en mêlent. Sans doute poussés par un considérable accroissement de leur population, les Normands multiplient les raids dévastateurs. Ces Normands, ou Vikings, ou Danois, ou Suédois, ou Norvégiens, se lancent dans des expéditions qui touchent d'abord les côtes. Puis, ils remontent fleuves, rivières, débarquent dans les petites villes riveraines, les villages, pillent, massacrent. Les monastères constituent pour eux des cibles de choix parce qu'ils n'offrent aucune résistance et que leurs trésors sont ainsi disponibles quasiment en libre service. Les moines fuient le plus loin qu'ils le peuvent, emportant avec eux leurs reliques. Pathétique. Charles le Chauve ne sait plus quoi faire. Contre ces envahisseurs qui ont déjà assailli Paris, Tours, Chartres, ils se déplacent très rapidement sur leurs dracars, longs de 20 à 40 mètres, de forme étroite et filée. Lorsque le vent n'est pas assez fort, une vingtaine de rameurs s'installent de chaque côté du bateau et le voilà qui file en silence, à toute allure. Ils ont un fond plat, peuvent accoster partout et transportent de 40 à 70 hommes armés jusqu'aux dents. En 843, les Normands sont à Nantes. Ils attaquent la ville, mettent à mort des clercs, des laïcs. La population se réfugie dans la cathédrale. Les Normands enforcent les portes, s'avancent vers l'autel où se tient l'évêque Goar et lui tranchent la tête. La légende raconte que Goar reprit sa tête tranchée, c'est ce qu'on appelle la céphalophorie, sortit de la cathédrale, suivi des Normands médusés, qu'il alla vers la Loire, et là, un bateau sans voile l'attendait, qui l'emmena à Angers, où les cloches se mirent à sonner toutes seules. Les abbés accoururent de partout pour inhumer enfin Goar. La réalité est moins étrange. Les Normands massacrent tout le monde et incendient la cathédrale. Ils s'en vont ensuite dans l'île de Noirmoutier. Dans le même temps, Toulouse et Bordeaux sont pillés. 2 ans plus tard, en 845, nouvelles invasions normandes. Au mois de mars, Ragnard Lodbrog à leur tête. Ils entrent dans Paris avec leurs dracars. Le dimanche de Pâques, les églises sont incendiées. Le pauvre Charles le Chauve ne sait plus où donner de l'épée et doit leur verser 7000 livres d'argent pour qu'ils s'en aillent. Cette même année 845, Nominoé, prince breton, refuse l'autorité du roi. Celui-ci envahit alors la Bretagne, mais est battu près de Redon, ville située aujourd'hui dans le département d'Ille-et-Vilaine, à Ballon. En 848, Nominoé proclame l'indépendance de l'Église bretonne, puis il devient roi de Bretagne. En 850, Charles le Chauve envoie ses soldats à Rennes. Mission, mater la Bretagne. Nominoé attaque la ville, s'en empare, puis se dirige vers Nantes, qu'il ajoute à son royaume. Les Normands assiègent Paris. Les Normands sont partout. Les rois, bien impuissants, avec leur armée longue à rassembler, ne se pressent pas pour faire face au danger. Pendant des années, les envahisseurs multiplient les raids conquérants. 40 ans après leur première visite dans la capitale, 30 ans après avoir pillé et incendié l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, les voici de nouveau en nombre sur la Seine. Le 24 novembre 885, plus de 700 dracars stationnent en aval de Paris. Dans chacun d'eux, 60 guerriers. Cela fait 42 000 Normands qui flottent sur le fleuve aux portes de la capitale. Toute la population environnante s'est réfugiée dans la ville, derrière les remparts renforcés au fil des années, sur lesquels on commence à promener les reliques de Sainte-Geneviève, Saint-Séverin, Saint-Marcel et Saint-Germain. Le comte Eudes rencontre le chef normand Siegfried, qui lui demande l'autorisation de poursuivre sa route. Refus d'Eudes. Les Normands assiègent Paris. En février 886, ils organisent le blocus. Eudes soutient le moral des Parisiens qui résistent vaillamment. Ils ont réussi à faire appel à l'empereur Charles le Gros, dont les troupes pourraient porter une attaque décisive. Mais il répond sans hâte aux appels des assiégés, au point qu'il n'arrive qu'en août sur les hauteurs de Montmartre. Ces attaques sont toutes repoussées. Il négocie alors avec le chef des Normands et les autorise à poursuivre leur route vers la Bourgogne qu'ils vont totalement ravager.